Au départ, il n'y a aucun écrivain biblique qui a jamais dit que la sanctification, c'était quelque chose de facile. À travers toute l'histoire de la Bible, il y a des exhortations dans ce sens-là qui étaient continuellement nécessaires envers le peuple de Dieu. De tout temps, là, même à l'époque apostolique, où l'Église était à son plus fort. Les croyants ont toujours éprouvé des difficultés à se sanctifier. C'est très clair à travers les Écritures. Alors pensez donc aujourd'hui. Être saint au milieu d'un monde souillé, ça a toujours été un grand défi pour l'Église. Tous les croyants éprouvent des difficultés avec le péché à différents niveaux. Il y en a juste qu'ils ne savent pas encore, mais tout le monde en a. Alors le phénomène est loin d'être nouveau. Ça veut dire qu'on n'est pas anormaux si on a des problèmes avec certains péchés tenaces dans notre vie. Prenons courage. En 1 Jean 2,25, l'apôtre Jean a écrit « La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle ». La vie éternelle ne fait pas ici référence à la vie après la mort, mais à la vie de Christ qui est là à l'intérieur du croyant. Autrement dit, on pourrait rendre ce texte-là ainsi sans être injuste envers lui. Là. La promesse qu'il nous a faite, c'est la sainteté. Alors, en théorie, la sainteté est tout à fait possible. On le voit à travers les Écritures. D'ailleurs, on ne nous exhorterait pas à l'être ou à s'efforcer de le devenir si c'était impossible. Même si personne ne l'a jamais atteint de façon parfaite, on sait qu'elle est possible. C'est pour ça qu'on est appelé à essayer de l'atteindre de tout notre cœur. Maintenant, le seul but dans la tête de beaucoup de chrétiens, c'est seulement d'arrêter de pécher par tous les moyens. C'est un excellent désir, comprenez-moi bien. Je dirais même que si on n'a pas ce désir-là, on n'est pas des croyants en santé spirituellement. Mais cesser de pécher, là, c'est un excellent désir, comme je disais, mais il faut comprendre que la sanctification, c'est plus que simplement arrêter de pécher. Cesser de pécher, c'est une chose. Être saint, c'en est une autre. Les deux sont pas toujours synonymes. Pour cesser de pécher, c'est facile. Il suffit d'aller vivre dans un milieu qui nous impose des contraintes, là, puis qui rend notre péché impossible à pratiquer. La chair va finir par s'en faire une raison, puis elle va accepter l'inactivité. On sera pas plus saint pour autant. Mais être saint, c'est dans le cœur que ça se passe avant tout. Pas dans les contraintes extérieures, pas dans la conduite. Alors, cesser de pécher, c'est bien. Mais c'est avant tout la sanctification de nos désirs profonds qui doit être notre premier objectif. Il faut penser à laver l'intérieur du plat, comme on dit, avant de penser à laver l'extérieur. Puis c'est pas quelque chose de si évident que ça à faire, même pour les chrétiens. On pense que c'est automatique là, que les païens essayent, eux autres, de sanctifier l'extérieur, puis les chrétiens sanctifient l'intérieur. C'est pas toujours vrai. Je pense que beaucoup de chrétiens tombent dans le panneau d'essayer de laver l'extérieur du plat avant de laver l'intérieur. Loin de moi de diminuer l'importance des bénéfiques contraintes extérieures. Je crois même qu'elles sont souvent nécessaires dans certains cas pour développer chez le croyant de saintes habitudes. Mais la sainteté, c'est plus que des simples contraintes. Pour devenir authentique, là, plus authentique, la sainteté exige un renoncement de cœur. La discipline personnelle, ça vient seulement en deuxième. On a tous besoin d'une meilleure compréhension de la sanctification. Puis avec l'aide de Dieu, je vais essayer de partager le peu de connaissances que j'ai avec vous autres, en espérant que ça va en aider quelques-uns. Personnellement, ce qu'il y a dans cette étude-là, c'est le fruit de mes propres combats personnels, puis je trouve que ça m'a beaucoup aidé, alors je pense que ça va en aider d'autres aussi. C'est ma prière, du moins. On va lire un passage là, qui va servir de référence tout au long de notre étude. Il s'agit de Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ou de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, la discipline que la loi proposait aux Juifs était insuffisante à procurer la vraie sainteté. On le voit ici parce que c'est un Juif qui parle. Pourquoi je dis ça? Ben, si c'était le cas, là, si la discipline suffirait, là, ben Jésus aurait pas eu besoin de venir, pas vrai? La discipline extérieure retient souvent le péché à l'intérieur, sans plus. C'est pareil pour le croyant aujourd'hui. Le croyant n'est pas plus capable de se changer lui-même qu'il a été capable de sauver lui-même. En fait, il n'est pas plus capable de se changer lui-même aujourd'hui qu'il est capable de se soulever lui-même par ses cheveux. Si nos efforts ont jadis réussi, ont même pas réussi à nous sauver, je veux dire, à plus forte raison, ils réussiront pas à nous sanctifier maintenant. Ça semble drôle à dire, mais la première étape de la sanctification, c'est de réaliser qu'on n'est pas capable de se sanctifier. Très important, ça, à retenir. Essayez de s'abstenir de péché en faisant uniquement appel aux efforts de notre volonté, puis essayez de produire nous autres-mêmes la justice. C'est rien qu'une pauvre façon de nourrir l'orgueil de la chair. Colossiens 2, 23 dit « Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair et non à sa sanctification. » Beaucoup d'anciens philosophes païens ont réalisé les mêmes choses que ce que Paul venait d'écrire. Là. Je vais en citer rien que deux ici pour le besoin de la cause. Là. Il y a Ovide qui a écrit « Le désir me conseille une chose, la raison une autre. » Sénèque a écrit de son côté, « Qu'est-ce donc qui, lorsque nous tendons d'un côté, nous entraîne de l'autre? » Alors, le phénomène n'est pas nouveau dans l'homme. La controverse actuelle qui existe à propos de ce passage-là de Romains 7, c'est de savoir si Paul parlait de lui avant ou après sa conversion. Généralement, ceux qui ont des problèmes plus ou moins graves avec le péché, puis qui n'ont pas tellement envie de s'en défaire ou qui craignent de la trop grande difficulté de devoir l'abandonner, vont évidemment choisir de s'identifier à la deuxième école de pensée. Comme pour se dire, c'est normal de ne pas avoir la victoire sur le péché, comment je m'en permettrai un peu? Paul ne l'avait pas lui-même. Bon, voyez-vous où ça peut mener, là, cette interprétation-là? Puis il y a beaucoup de croyants qui pensent ça, que Paul parlait de son expérience chrétienne en parlant ainsi. Puis ceux qui s'en sortent assez bien de ce côté-là, ben, ils vont s'attacher à la première école de pensée en se disant, « Bon, il faut pas que je me relâche, parce que maintenant que je suis chrétien, ben, je dois faire tous mes efforts pour mener une vie victorieuse. C'est pas normal d'être comme ça, de vivre dans la boue de cette façon-là. » Maintenant, si on justifie nos faiblesses en nous identifiant à Romains chapitre 7, on se condamne nous-mêmes à demeurer dans la misérable expérience de Romains chapitre 7. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Ma position là, à propos de ce passage-là, c'est que Paul décrit ici la situation d'un juif pieux qui n'était pas né de nouveau et qui essaie de se sanctifier pour plaire à Dieu. Il essayait du moins. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Bon, pour moi c'est clair, dans le Seigneur, on voit que ce juif-là Jésus-Christ a trouvé la réponse à son dilemme en Jésus-Christ. La fin du passage le stipule clairement. Bon, comme je disais, pour moi, c'est clair, dans le Seigneur, on a maintenant les moyens de vivre au-dessus du péché. On a la victoire sur ce corps de mort. Jésus-Christ nous l'a donné. C'est ça que le texte veut dire. Mais beaucoup de croyants vont aussi vivre exactement le même écroulement que ce juif-là avant de connaître la victoire. Ça aussi, c'est normal. Alors, les deux écoles se rejoignent à un moment donné. Là. En fait, beaucoup de croyants vivent cet écroulement-là, puis ça leur fait juste du bien. On vit à peu près la même chose que les Juifs de l'Ancien Testament vivaient. On vit les mêmes échecs. Dieu permet ça dans le but qu'on apprenne notre faiblesse. En fait, plus on va vivre ce genre d'écroulement-là, ce même découragement-là de nous-mêmes, mieux ça va être. C'est rien que quand on est arrivé à ce point-là que la grâce de Dieu va pouvoir prendre un peu la relève dans notre vie. Avant que la grâce puisse faire un vrai travail, un vrai ministère dans notre vie, il faut d'abord que notre confiance en nous-mêmes ait été brisée comme ça, à plusieurs reprises même. Le chemin de la sainteté est pavé avec les tuiles de nos chutes et de nos échecs. C'est normal. La chair, à cause de son indépendance naturelle, puis de son inimitié envers Dieu, va d'abord épuiser absolument toutes ses ressources avant de nous laisser vraiment nous appuyer sur celle de Jésus-Christ. La force de caractère naturel de la chair de l'homme le pousse sans cesse à s'appuyer sur lui-même. Mais il vaut mieux sentir notre faiblesse parce que c'est elle qui va nous porter à nous appuyer sur Dieu. C'est pour ça que je crois que les défaites dans nos efforts de sanctification sont absolument nécessaires. On n'est pas des croyants anormaux parce qu'on éprouve des échecs, au contraire. C'est juste de cette façon-là, selon moi, qu'on va arriver à comprendre puis à expérimenter la grâce de Dieu. Un jour, les chrétiens vont être tellement fatigués d'eux-mêmes qu'ils vont pleurer quand ils vont entendre parler de la grâce de Dieu. Puis il faut qu'on en arrive là. L'écroulement de la chair, c'est la première condition de la victoire puis de la sanctification tout entière. Il faut mourir avant de vivre, c'est un principe, puis on doit être vaincu avant de vaincre. Tout dans la vie chrétienne fonctionne suivant ce principe-là de mort puis de résurrection-là. Après le brisement vient la grâce. La faiblesse conduit à la grâce. On aimerait ça des fois avoir une volonté de faire, là, comme certains inconvertis qu'on connaît, là. Quand on les voit, on a quasiment envie de prier pour que Dieu nous rende comme eux autres, pas vrai? Ils ont l'air tellement forts, là, puis tout tellement facile. Mais Dieu ne nous rendrait pas un service, les amis, s'il ajoutait de la force puis de la volonté à notre chair. Parce que ça ferait juste concourir, en réalité, à une indépendance de Dieu encore plus grande qu'avant, comprenez-vous? Nos victoires seraient plus à la gloire de Dieu, mais à la nôtre. Le croyant n'est pas appelé à devenir une sorte de Superman, comme les incroyants essaient de le devenir, mais bien plutôt le contraire. C'est le frère Laurent qui a écrit « Plus vous aspirez à être parfait, plus il vous faudra devenir dépendant de la grâce divine. » L'indépendance spirituelle, c'est un désastre pour la vie chrétienne. L'indépendance, c'est le siège de l'orgueil puis de la propre justice. Alors, la vraie spiritualité, c'est au contraire d'atteindre une dépendance totale en Dieu puis en ses ressources à lui. Puis il n'y a rien que la faiblesse puis les échecs. C'est rien que la réalisation de nos faiblesses qui va nous permettre d'arriver à ça. La réalisation de notre faiblesse, c'est le commencement de la vraie victoire. Alors, faut être rendu en bas de la côte avant de vouloir commencer à la remonter. C'est comme ça. La vie chrétienne, c'est un paradoxe en plusieurs domaines, puis c'est le même de la sanctification aussi. Quand notre faiblesse a été bien expérimentée, bien comprise, et que notre confiance en la grâce divine est parvenue à maturité, cette grâce-là va elle-même nous inspirer de la retenue, puis nous appeler à faire des efforts pour repousser le mal. Puis cette gracieuse discipline-là n'a rien de commun avec la discipline charnelle qu'on tentait de s'imposer à nous-mêmes auparavant. Si on veut devenir fort spirituellement, soyons certains que Dieu va commencer d'abord par affaiblir la confiance qu'on met en nos propres efforts pour être saints. C'est un principe, vous échapperez pas à ça. Selon ce que Paul a dit en 2 Corinthiens 12:9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bon, si on comprend pas le principe selon lequel Dieu travaille, on va connaître beaucoup de confusion puis de frustration. Dieu n'est pas disposé à nous donner de la force. Dieu veut plutôt nous faire participer à la sienne. Selon qu'il est écrit, l'Éternel est la force de son peuple. Psaume 28, 7-8. Dieu ne veut pas nous ôter notre faiblesse. Je m'excuse, si vous priez pour ça, vous priez pour rien. Dieu ne veut pas nous ôter notre faiblesse. La faiblesse est bien trop précieuse pour que Dieu nous l'enlève. La faiblesse est essentielle à la vie chrétienne. C'est le moteur qui fait tourner toute la grâce. Parce que ça, la faiblesse, ça nous aide à marcher près de Dieu. Puis ça nous apprend à nous appuyer davantage par la foi sur la force de notre Sauveur. C'est là qu'est la force du christianisme. Quand Jésus est mort, là, ces pauvres disciples qui ne comprenaient pas le plan de Dieu, ils pensaient que c'était la fin de tout. Mais on sait que c'était au contraire le commencement de tout. Il fallait bien qu'il meure avant de ressusciter. C'est pareil pour nous autres, quand on s'écroule, là, qu'on réalise notre faiblesse et notre incapacité à remplir les exigences saintes de Dieu. C'est rien que là qu'on peut commencer vraiment à croître dans la grâce puis de connaître un peu la libération de nous-mêmes. Ceux qui sont encore forts en eux-mêmes puis qui ont confiance en leur propre capacité à se discipliner vont faire l'expérience de la grâce d'une façon très, très limitée seulement. Arrivé à l'époque apostolique, il y a beaucoup de Juifs qui avaient eu l'occasion, eux autres, de réaliser leur incapacité à observer la loi de Dieu de façon parfaite, comme nous le dit aussi notre passage du début. C'était une leçon qui était sûrement bien humiliante pour eux autres, mais une leçon qui était nécessaire à leur salut. La loi servait justement à anéantir la bonne opinion que l'homme avait de lui-même, puis à briser sa confiance en ses propres capacités. Si on se fie encore une fois à notre passage du début, ce qui a justement amené les Juifs pieux à rechercher un autre moyen de justification, puis de sainteté, c'est justement leur incapacité à se sanctifier avec la loi. C'est pour ça, c'est ça qui les a portés à se tourner vers Jésus-Christ. C'est un bien pour un mal, hein? Un mal pour un bien, je veux dire. Mais nous autres, ayant pas vécu d'avance ce brisement-là, on n'a pas encore vraiment réalisé notre faiblesse. On doit donc, comme ces Juifs, vivre de nombreuses défaites avant de perdre la confiance charnelle naturelle qu'on a en nous-mêmes, avant de pouvoir apprendre à puiser en Christ la grâce de mener une vie victorieuse. C'est pour ça qu'on voit tellement de similitudes quand on lit ce passage-là de Romains 7, puis que les chrétiens s'identifient à ça, puis se demandent si c'est pas un chrétien qui parle. Ben, c'est pas un chrétien qui parle, c'est un Juif qui a connu la faiblesse. Mais notre expérience se rapproche de la sienne parce qu'on n'a pas connu ça, nous autres, comme lui. La grâce, là, c'est le muscle chrétien. C'est rien que la faiblesse qui va démarrer ça. Tous les chrétiens admettent théoriquement leur faiblesse, mais on n'a malheureusement pas tous réalisé jusqu'à quel point on est vraiment faible, par exemple. Il faut qu'on fasse l'expérience de notre faiblesse avant de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Sinon, toute notre connaissance est juste théorique. Et pour bien comprendre notre faiblesse, pour pas que ça demeure théorique, il est nécessaire de faire un certain nombre d'expériences décevantes dans nos efforts de sanctification. Nos échecs sont donc des étapes essentielles de la victoire. On peut vivre sans échecs, 200 échecs, paniquons pas, c'est le plan de Dieu. Ça nous fait rien que du bien, on se sent mal dans notre peau, on est déçu de nous autres, ça nous brise, ça nous humilie, en bref, ça nous fait mourir à nous-mêmes, puis c'est exactement là que le Seigneur veut nous amener. En citant l'Ancien Testament, Jésus a dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice » Matthieu 12, 7. Dieu préfère voir les croyants étendre par la foi leurs faibles mains vers lui que de les voir faire des efforts charnels pour se changer aux autres mêmes, puis de pouvoir se glorifier plus tard de leur réussite, comprenez-vous? Une spiritualité basée sur les propres efforts conduit inévitablement à l'orgueil spirituel. Puis ça, c'est certainement pas la volonté de Dieu, les amis. Dieu nous fait essuyer des échecs pour nous empêcher de nous glorifier, puis nous rappeler ou former en nous de l'humilité vis-à-vis l'auteur véritable de la sainteté, qui est l'Esprit-Saint, qui est Dieu lui-même. Alors nos échecs nous enseignent à nous appuyer, puis à nous attendre toujours plus sur la grâce de Dieu. Puis ça, c'est juste un bien. Plus on se sent faible, plus on comprend, puis plus on apprécie le salut par grâce. Puis plus on apprécie la grâce que Dieu nous a faite, plus on développe la reconnaissance envers lui, puis plus on est agréable à Dieu, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. On a été appelé, dit Éphésiens, à la gloire de la louange de sa grâce qu'il a eue envers nous autres en Jésus-Christ. La faiblesse va développer ça, justement. Il y a quelque chose de bien important à comprendre. La sainteté repose pas, premièrement, sur la capacité du croyant à se discipliner, je le répète, mais sur sa capacité de croire à la grâce qu'il possède en Jésus-Christ, puis à s'appuyer sur elle avant de commencer à se discipliner. La discipline n'est pas exclue, mais elle vient seulement en deuxième, elle vient après la grâce. Ça, c'est très, très, très important. Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Matthieu 23, 25. Cette parole-là de Jésus à propos des pharisiens et de leur péché d'intempérance m'a vraiment amené à un moment donné, à réfléchir, puis à me poser des questions au sujet de la nature réelle de la sainteté. C'est-tu possible qu'un certain nombre d'entre nous autres, les chrétiens évangéliques, on ait une conception erronée un peu de la sainteté, du moins certains d'entre nous, pour rien exagérer? Les pharisiens étaient parmi les hommes les plus tempérants, puis les plus disciplinés extérieurement. Un bon pharisien ne volait pas, commettait pas l'adultère, se prosternait pas devant aucune idole, etc., etc. Bref, ils avaient beaucoup de retenue extérieurement. Mais le Seigneur a tout de même discerné la présence du péché d'intempérance dans leur vie. Quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait vraiment réfléchir. Ce péché-là existait sous une forme qui n'était pas évidente. mais ils étaient bien là, par exemple, cachés dans le fond de leur cœur. L'apôtre Paul a écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Puis il finit par la tempérance, Galates 5, 22. La tempérance, c'est le contrôle des désirs de la chair. J'ai pas dit que la tempérance, c'était le contrôle de la chair, mais le contrôle des désirs de la chair par le Saint-Esprit. On peut pas empêcher la chair d'avoir des désirs, c'est évident. Si vous pensez que vous êtes pas normal, là, parce que vous avez des tentations puis des désirs pécheurs, je m'excuse, mais vous êtes normal. On peut pas empêcher d'avoir des désirs. Mais on peut, par la grâce qui est en Jésus-Christ, empêcher les désirs charnels de pénétrer dans notre cœur, par exemple, puis de gagner notre volonté. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, oui. Mais la tempérance n'est pas nécessairement toujours le fruit de l'esprit. Le jeune incroyant, par exemple, prenez un jeune, il y en a plusieurs dans le monde, là, que les gens, leurs parents, les mettent dans des collèges privés, là, qui sont très sévères. Là. Bon, ils deviennent tempérants par la force des choses, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit, alors leur tempérance n'est pas un fruit de l'esprit, mais le fruit d'une discipline extérieure seulement. Un peu comme les pharisiens, puis le Seigneur nous appelle à quelque chose de bien plus élevé que ça, comme sainteté. Alors même s'ils sont tempérants à l'extérieur, ils peuvent être encore intempérants par en dedans. Beaucoup de croyants qui ne sont pas encore au clair à propos du rôle de la grâce de Dieu dans leur vie prennent souvent toute leur sanctification sur eux-mêmes, puis ils essaient de christianiser leur chair par la force. Ils commettent sans cesse les deux mêmes erreurs. Ils s'efforcent de contenir leur péché, puis ils s'efforcent de produire eux-mêmes quelque chose qui ressemble au fruit de l'esprit. Dans un cas comme dans l'autre, ils font fausse route. Leurs efforts de discipline sont tout à fait louables, comprenez-moi bien. Mais il faut comprendre aussi, avant tout, que la vraie sainteté a une origine divine et non humaine comme ça. Notre texte de tantôt est clair. C'est le travail de l'esprit de produire son propre fruit. C'est ce fruit-là qui engloutit à son tour les œuvres de la chair, dont il était question dans le même passage de Paul un petit peu plus tôt. La tempérance dont il est question, par exemple, se réfère pas à la discipline qu'on exerce sur notre corps, mais à la discipline que la grâce ou l'Esprit-Saint essaie d'exercer dans notre vie. Pourquoi nous discipliner sans la grâce quand on peut le faire avec elle? La sainteté, c'est d'abord et avant tout le travail de la grâce qui agit dans le cœur, puis qui finit par se refléter dans notre conduite. Je pense qu'on a beaucoup d'ajustements intérieurs à faire dans la sanctification. On a plus d'ajustements intérieurs que d'efforts extérieurs à faire, je pense. Il ne faut pas confondre la tempérance du Saint-Esprit là, puis la pauvre discipline humaine. De façon générale, je pense qu'on devrait réviser notre conception de la sainteté. Il faut essayer de travailler au niveau de nos désirs intérieurs, d'abord, avant de songer à se discipliner puis de se retenir. La discipline charnelle, c'est une fausse route. Je le sais, j'ai marché dans cette route-là tellement d'années. Exercer uniquement une discipline extérieure sur le corps peut rendre quelqu'un plus saint aux yeux des hommes, mais ça ne le rendra pas plus saint aux yeux de Dieu. La discipline qui est basée sur nos propres capacités corrige tout au mieux le comportement extérieur, mais la grâce, elle, corrige le mal à la racine en inspirant un renoncement de cœur concernant le péché, avant de nous inspirer de la retenue. J'aime pas employer le mot discipline quand je parle de sanctification, parce que ce mot-là traduit souvent malheureusement l'idée qu'on doit se sanctifier par nos propres forces, tandis que c'est pas ça du tout. Par la discipline, on tente souvent d'acquérir une vertu, pas vrai? Mais dans le Seigneur, on n'a rien à acquérir du tout, il faut qu'on comprenne ça. L'Écriture nous dit « Vous avez tout pleinement en lui », nous dit Colossiens 2:10. Fait réfléchir ça. On possède déjà toutes les vertus de Christ. C'est pas extraordinaire ça. Hein? Le problème, c'est que beaucoup de croyants ne le savent pas. Par exemple, ce que Dieu nous demande, c'est pas de nous discipliner ou nous forcer pour aimer les autres, mais de renoncer à la haine ou l'amertume, puis de résister à la tentation de laisser ça prendre le contrôle de notre volonté. C'est plutôt ça, notre devoir de chrétien. Dieu nous demande pas de nous discipliner pour être tempérants, il nous demande de renoncer à la convoitise, de résister à la tentation de laisser notre chair être intempérante, puis d'empêcher la tempérance de Christ de vivre à travers nous autres. Comprenez-vous toute la différence, là? Le chrétien qui a un cœur partagé, là, puis qui est paresseux spirituellement, est coupable, en fait, de garder la sainteté captive en lui. C'est un peu le péché que les Juifs avaient durant le temps de Jésus. Il faut réaliser avant tout que la sainteté à laquelle on aspire est déjà en nous par Jésus-Christ, puis qu'elle vient de Dieu. Le psalmiste a écrit « Toute resplendissante est la fille du roi », psaume 45, 14. La traduction King James a rendue « Toute glorieuse en dedans est la fille du roi ». Le but de Dieu, c'est exactement ça, de nous faire briller à partir de l'intérieur. C'est ça que le christianisme veut faire, ou peut faire pour l'homme. Le péché, c'est pas seulement une action mauvaise que l'homme pose, mais c'est surtout un mal qui se trouve à l'intérieur de son cœur même. La sanctification, c'est pas seulement s'abstenir de commettre des actions mauvaises, mais c'est avant tout exercer un renoncement de cœur envers nos penchants naturels, puis de permettre à Dieu de faire un ministère de purification au niveau de notre volonté profonde. C'est ça la vraie sanctification. Maintenant qu'on est devenu croyant, il faut réaliser que c'est pas la discipline qui va nous faire devenir plus saints. Ben, c'est premièrement la grâce de Dieu qui nous habite. Quand on va avoir reconnu ça, là, ça va être le temps de nous conformer à cette grâce-là, puis de pratiquer de la retenue sur notre chair. Là, ça va être le temps, mais pas avant. Alors, si on considère les vertus chrétiennes comme quelque chose qui s'acquiert par la discipline, et avec le temps, on fait, encore une fois, définitivement fausse route. La vraie sainteté consiste premièrement à recevoir Jésus-Christ. Tout commence là. Après ça, on n'a plus rien à acquérir. Je sais que ce concept-là en étourdit plusieurs, en surprend beaucoup, mais c'est la stricte vérité, c'est la vérité biblique, ça. On n'a plus rien à acquérir après que tu as acquéri Jésus-Christ. L'Écriture dit ça à plusieurs endroits, que Jésus-Christ est tout en tous. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de résister à nos convoitises qui essaient de reprendre la place que la grâce de Dieu leur a prise. On doit résister au désir de notre chair d'agir contrairement aux vertus qu'on a. Plus on va se laisser influencer par la grâce, plus on va affaiblir les désirs de la chair, puis plus on va affaiblir les tentations. La discipline à elle seule possède pas de vertus sanctifiantes, parce qu'elle change pas les désirs profonds qu'on peut avoir en nous autres mêmes. Résister à la tentation, puis faire des efforts pour obéir à la grâce de Dieu en nous, c'est la seule discipline qui soit vraiment spirituelle. L'authentique sainteté naît d'abord de la grâce qui fait un ministère dans notre cœur, puis à laquelle on est appelé à participer, à coopérer. On sait que la discipline pourra jamais faire un vrai saint d'un inconverti, parce que même s'il arrivait à se contrôler extérieurement, le péché serait toujours dans son cœur. Le plus grave, c'est que même des croyants peuvent tomber dans le même piège. En tant que croyant, si on pense que la sanctification, c'est quelque chose qu'on accomplit par nos propres efforts, par nos propres forces, on va se priver de la grâce de Dieu, puis on ne deviendra jamais plus saint réellement, peu importe les résultats apparents auxquels on peut être arrivé. Parce que sans la foi dans la grâce, il est impossible de permettre l'intervention divine. La confiance en nous-mêmes, là, empêche l'action de la grâce. Il y a plusieurs formes de discipline que les non-croyants et même des croyants mal avertis peuvent pratiquer. Elles se définissent presque toutes de la même façon. C'est la chair qui essaie de contrôler la chair. Hein? C'est ça la discipline dans le fond. Puis sauf exception, la chair peut pas vaincre la chair. C'est un combat contre toi-même qui peut durer toute l'éternité. Alors confondons pas une vie sainte avec une vie disciplinée, parce que les deux sont pas nécessairement synonymes. C'est sûr que quelqu'un de saint, c'est quelqu'un de discipliné ou de réglé dans sa conduite, pour employer l'expression biblique, et on peut pas dire que c'est tous ceux qui se disciplinent qui sont vraiment saints, par exemple. Si vous comprenez pas ça, je vous encourage à reculer le tape et à réécouter cette petite phrase-là. La discipline doit pas être regardée comme le moyen de sanctification, mais comme le fruit de la sanctification. Ce qui nous a rendus saints avant tout, c'est le fait d'avoir reçu l'Esprit Saint. La discipline vient en deuxième. Le croyant doit s'efforcer d'obéir à la discipline que lui propose l'Esprit de la grâce. On ne doit pas se discipliner dans l'indépendance. C'est ça que je veux dire. La grâce veut engloutir la chair puis la réduire à l'inactivité. C'est son travail. Mais le croyant ne doit pas essayer de se discipliner dans l'indépendance. Beaucoup tentent de se discipliner sans la grâce, c'est triste, mais c'est ça, par manque de connaissances, en recevant trop peu d'enseignement à ce niveau-là, on peut être conduit à errer et à se priver de bénédiction dans ce sens-là. Aujourd'hui, la capacité de se discipliner là, est souvent regardée à tort comme le seul moyen de sanctification. La majorité des êtres humains ont humainement pas une grande volonté pour se discipliner. C'est pour ça que tout le monde loue le croyant discipliné. Il est admiré par tout le monde parce qu'il apparaît être comme une sorte de surhomme aux yeux des autres. Ceux qui ont une certaine force de caractère et une certaine facilité à exercer de la discipline sur eux autres, sur eux-mêmes, sont généralement sévères avec ceux qui n'ont pas la même facilité. C'est un fait. Les croyants qui peuvent se discipliner avec une certaine facilité comprennent généralement pas pourquoi tout le monde ne peut pas en faire autant, puis ils sont portés à se glorifier un peu secrètement de leur achèvement, peut-être même inconsciemment, puis ça les porte à mépriser un peu les autres. On a vu que les pharisiens étaient des gens très disciplinés. Devenir pharisien, c'était pas à la portée de n'importe qui, vous savez. Jésus a dit, pourtant, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus ne voulait pas dire qu'il fallait se discipliner encore plus qu'eux autres si on voulait être sauvé, mais qu'il fallait qu'on ait en nous une sainteté de cœur, beaucoup plus grande ou beaucoup plus authentique, si vous préférez. C'est ça que Jésus voulait dire. Jésus disait, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Beaucoup de gens à l'époque là, étaient fatigués de la loi, fatigués de faire des efforts, puis encore des efforts, pour essayer d'arriver, d'être à la hauteur des exigences de la loi. Paul a écrit, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Bon, l'ignorance de notre libération spirituelle du péché place le chrétien dans une position pas mal semblable à celle des gens qui vivaient sous la loi, vous savez. Beaucoup de chrétiens sont fatigués des efforts et des efforts qu'ils font. Mais rendons grâce à Dieu, il y a du repos en Jésus-Christ. Hébreux 4:10 nous dit, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Quand on est uni à Christ, on a quitté ce vieux système-là basé sur les performances. Alors, en comptant trop sur nous autres mêmes, on se prive un peu de la grâce de Dieu. Les gens qui ont naturellement plus de volonté que les autres sont exposés à un danger bien spécial, celui de tomber dans une certaine forme d'ascétisme. Et comme on l'a dit tantôt, cette sorte de discipline-là rend pas l'homme plus saint, elle en donne seulement l'impression puis l'apparence. Pour beaucoup de croyants du Moyen Âge, la discipline jouait un rôle de première importance en ce qui concernait la sanctification. À cette époque d'ignorance-là, les gens pieux connaissaient seulement l'ascétisme comme unique moyen de sanctification. L'ascétisme prenait toutes sortes de formes, entre autres, on s'infligeait toutes sortes de souffrances physiques pour tâcher de diminuer les passions de la chair puis finir par penser à autre chose. Mais la vie de monastère avait pour but de protéger le croyant du monde. Mais comme le monde était un autre, il ne pouvait jamais vraiment y échapper de toute façon. Les poissons ne peuvent pas fuir l'eau en nageant plus vite, vous savez. Alors, peu importe où ces gens-là allaient se réfugier, les passions de leur chair les suivaient toujours. On sait pertinemment aujourd'hui que les disciplines spirituelles, comme ils les appelaient, se sont révélées à être inutiles, puis tout à fait charnelles en réalité. Je pense qu'il vaut mieux faire face au péché qui est en nous autres, puis avec l'aide de la grâce de Dieu, en venir à le vaincre plutôt qu'essayer simplement de le masquer par la discipline. On ne doit pas juste essayer de contrôler la chair, on doit comprendre que le vrai combat se trouve en nous autres, au niveau de notre renoncement au péché, de notre foi, puis de notre obéissance à la grâce divine. C'est là qu'allait la victoire. Si la sainteté venait uniquement de la discipline, Christ serait donc mort en vain. Alors, exercer un simple contrôle extérieur sur notre corps, c'est pas vraiment de la sainteté. L'Écriture révèle que la vraie sainteté s'accomplit premièrement par la foi en notre union avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On a ça en Romains 6, très clairement. On doit d'abord reconnaître humblement qu'on ne peut pas se sanctifier tout seul en comptant sur nos propres efforts, comme le faisaient les Juifs, mais que la grâce et la sainteté viennent uniquement de Jésus-Christ en nous. Quand on va avoir bien appris cette leçon-là, ça peut faire mal de l'apprendre, ça peut être long, là, mais quand on va avoir appris ça, alors on va pouvoir commencer à obéir à la grâce de Dieu qui va nous inspirer la discipline nécessaire à notre sanctification. Les choses ne seront pas pareilles. Dieu ne nous demande pas d'imiter le caractère de Jésus-Christ en nous disciplinant. mais de le laisser lui-même reproduire sa propre vie à travers nous autres. C'est excessivement important de comprendre ça, si on ne veut pas se remettre sous la loi. La sanctification par les œuvres, ça peut devenir une erreur tout aussi grave qu'un salut par les œuvres, vous savez. Beaucoup de chrétiens sont tombés là-dedans. Le vrai christianisme, c'est plutôt un échange de vie. Dieu désire remplacer graduellement notre vie par sa vie à lui. C'est pas juste une question de discipline puis d'effort. Pour connaître une sainteté plus authentique, il faut qu'on apprenne à nous appuyer puis à nous confier davantage en la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Nos efforts sont importants, mais il faut se rappeler de ne pas les placer avant la grâce de Dieu, mais de les placer après. Laissons Jésus-Christ vivre à travers nous autres. Dieu connaît les bons désirs de notre cœur puis la faiblesse de notre chair. C'est pour ça qu'il désire lui-même nous venir en aide, comme un père porte son fils dans tout le chemin, nous dit Deutéronome 1:31. Romains 10:5, le verset 8, nous disent « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Au verset 8, Paul parle ensuite de la justice qui vient de la foi. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Bon, je m'explique. La loi donnait la justice en récompense après les œuvres. C'est-à-dire que par la discipline puis par les efforts, on finissait par atteindre un semblant de sainteté qui était relativement agréable à Dieu. Mais la foi ou la nouvelle alliance donne la justice avant les œuvres. C'est une différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors la sainteté de vie ou la justice, pour employer l'expression de Paul, c'est quelque chose que le croyant a maintenant reçu dans son cœur, puis à laquelle il est appelé à obéir simplement. La sanctification s'accomplit premièrement par la foi en la grâce de Dieu, qui est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ensuite, par un renoncement de cœur au péché, là on se met à résister puis à s'éloigner de la tentation. La discipline personnelle ne doit pas venir avant d'avoir compris tout ça, sinon on va se remettre sous la loi, simplement. Colossiens 2:6 dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ». Comme on a été sauvé par la foi, en la grâce de Dieu, on doit aussi apprendre à vivre notre vie chrétienne suivant ce même principe-là, par la foi, en la grâce de Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés par grâce, nous laisserait-il nous sanctifier sans grâce, loin de là? Habacuc 2:4 nous dit bien que le juste vivra aussi par la foi ensuite, pas rien que sauvé par la foi, mais il vit par la foi aussi. On a été sauvé par grâce, puis on va aussi être sanctifié par la même grâce. On n'a pas été sauvé par la foi pour vivre ensuite par les œuvres. En Tite 2:11-12, Paul a écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, etc. » Alors c'est par la grâce que les vrais croyants sont influencés à s'éloigner du mal puis à prendre plaisir au bien. La grâce inspire la sainteté. Pour certains croyants, les exhortations directes comme « fuyez l'impudicité » par exemple, puis toutes celles qu'il peut y avoir encore qui ressemblent à ça, là, sont très souvent mal interprétées, puis beaucoup de croyants se mettent à croire qu'ils doivent puiser en eux-mêmes la force de faire ce que ces exhortations-là leur disent, ce qui a pour effet de rendre la vie chrétienne quelquefois très lourde. Si les écrivains du Nouveau Testament adressaient souvent leurs exhortations aux croyants, sans mentionner la grâce de Dieu comme je le fais moi là depuis le début, là, c'est parce que les premiers croyants avaient déjà tous acquis cette connaissance élémentaire-là. Chaque personne en Christ possède cette grâce transformante en lui. Mais de nos jours, cette connaissance-là est malheureusement pas chez tous. Les exhortations du Nouveau Testament constituent pas un code de loi. Elles sont simplement destinées à rappeler aux croyants d'obéir à ce qu'ils possèdent déjà en eux autres. Les commandements du Nouveau Testament sont uniquement destinés à faire sortir le croyant du relâchement puis lui rappeler que dans quel chemin il devrait déjà marcher s'il était plus obéissant à l'Esprit-Saint qu'il a reçu. Les différentes exhortations ou commandements à propos de la sainteté sont seulement que des rappels à coopérer avec la grâce de Dieu. Comprenez-vous? Quand on rencontre des exhortations, par exemple, comme « Aimez-vous les uns les autres », ça nous rappelle seulement d'obéir à l'amour qui est déjà en nous autres. C'est pas un appel à produire nous autres même l'amour. à nous forcer pour aimer. Ce qui empêche le croyant d'aimer, c'est pas le manque d'amour, c'est la présence de la haine qu'on tolère là, ou de la rancune charnelle qui est là, qui empêche l'amour de vivre. Notre rancune agit comme un bouchon là, qui empêche la vie de Christ de se manifester. C'est ça la vérité. Si on a de la misère à aimer quelqu'un, ça sert à rien de demander à Dieu de nous donner de l'amour, parce qu'on a déjà tout l'amour qu'il faut en Jésus-Christ. On est comme un chien qui court après sa queue, là. Tu pries pour rien si tu pries pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord confesser notre péché, puis de bien nous repentir, d'avoir donné accès à la rancune. Puis l'amour de Dieu va émerger tout seul après. Allez voir. Ça, là, je vous en donne la garantie. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Le croyant qui prie pour faire descendre la grâce du ciel, je le répète, il est comme un chien qui tourne en rond pour attraper sa queue. Le véritable problème, c'est pas qu'on manque de grâce, mais plutôt qu'on manque de la reconnaître en nous autres, puis qu'on manque de lui obéir. On retient le péché souvent, au lieu de le laisser partir. De là, tous nos problèmes. Pourquoi les gens sont tant portés à sauter sur la discipline immédiatement, là, quand vient le temps de se sanctifier? Eh bien, parce que plusieurs croyants ont malheureusement plus de foi en eux-mêmes qu'ils en ont en la grâce de Dieu qui les habite. C'est triste de même, on est fait comme ça. J'échappe pas à ça moi-même. Notre besoin, c'est pas de posséder plus de grâce, mais plus de soumission à l'influence qu'elle cherche à avoir dans nos vies. Frères et sœurs, on a tous besoin de prendre une attitude plus docile envers la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est là qui est le cœur de la vie chrétienne. Si on est attentif, on va réaliser que la grâce cherche quotidiennement à nous aider à vivre, suivant les directions de la parole de Dieu. En Éphésiens 2:6, Paul a dit, « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ. » Bon, être assis en Jésus-Christ, c'est ça la vraie base de la vie chrétienne. Quand on est assis, il n'y a aucun muscle de notre corps qui travaille. On est dans une position de repos. C'est le siège sur lequel on est assis qui nous porte et qui fait tout le travail, dans le fond. Comme on l'a vu, avoir de la volonté, comme on dit, mais ça ne nous est pas vraiment avantageux. La faiblesse du faible n'est pas un handicap dans le Seigneur. Puis la force de celui qui est fort de caractère lui est d'aucune utilité réelle non plus. Tous les croyants, le fort comme le faible, doivent graduellement apprendre à se laisser porter par leur divin siège, qui est Jésus-Christ lui-même. La nouvelle naissance a déjà effectué en nous autres un changement intérieur. On doit maintenant coopérer avec les nouvelles affections que Dieu a fait habiter en nous autres par son esprit, puis effectuer les changements extérieurs qui nous sont inspirés par la grâce. La discipline vient en deuxième seulement. Puis quand je parle de discipline, je parle de l'obéissance aux directions puis aux suggestions de la grâce. Il y a une discipline charnelle, puis il y a une discipline spirituelle que j'appelle l'obéissance et la soumission. La vraie tempérance chrétienne, par exemple, va se manifester quand le croyant va reconnaître humblement l'auteur de la sainteté, puis qu'il va se soumettre de plus en plus au Saint-Esprit qui lui communique la capacité d'exercer un saint contrôle sur son corps, comme il le fait pour tous les croyants d'ailleurs. La seule discipline qui est efficace, c'est celle qui nous est inspirée par la grâce de Dieu. Regardez les non-croyants qui font de la musculation, par exemple. Ces gens-là déploient beaucoup, beaucoup de volonté. Par leur volonté puis par leurs efforts, ils arrivent un jour à développer leurs muscles puis à tirer gloire plus tard de ce qu'ils ont accompli. Alors, c'est pas ça que Dieu veut pour le croyant. L'auteur véritable de la sainteté, je le répète, c'est l'Esprit-Saint en nous autres. Oui, on doit faire des efforts. Oui, on a besoin d'exercer une certaine volonté. Oui, on a besoin de discipline, mais c'est pas pour développer la sainteté. C'est pour obéir à la volonté de la grâce. Bien différent, ça. C'est bien la discipline, mais il faut d'abord reconnaître Dieu dans toutes nos voies, comme dit l'Écriture. Celui qui se sanctifie en s'appuyant sur lui-même pratique seulement une discipline charnelle, puis un christianisme mélangé de gloire personnelle, un christianisme mélangé d'œuvres. Chaque fois qu'on fait un effort, il faut s'appuyer sur Dieu en même temps, ou alors Dieu pourrait bien retirer sa grâce, puis nous faire éprouver une autre défaite pour nous humilier, puis nous apprendre la leçon. Selon ce qui est dit aussi en Jacques 4:6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles, à ceux qui savent se courber devant lui, qui reconnaissent l'autorité du Saint-Esprit dans leur vie. On doit se discipliner, mais on ne doit pas se discipliner dans l'indépendance. La sanctification charnelle commence par l'effort humain, puis finit par l'orgueil. La sanctification spirituelle commence avec l'humilité, puis se termine avec la gloire de Dieu. En Romains 8:13, Paul a écrit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On a donc ici la description de la vraie discipline spirituelle. Beaucoup de croyants se privent littéralement de grâce en ignorant le ministère du Saint-Esprit en eux autres, puis en accordant une trop grande importance à la discipline. Il est à espérer qu'avec le temps, la croix va faire une œuvre de destruction à l'endroit de nos capacités à nous discipliner, puis nous amener humblement à compter sur Dieu avant tout. Comme on l'a dit plus tôt, cette humiliation-là a pour but de nous porter et nous appuyer plus sur la grâce de Dieu que sur nous-mêmes. Le résultat va être de rendre notre sainteté beaucoup plus authentique, puis de produire une sainteté qui va être à la seule gloire de Dieu, qui va être merveilleuse, qui va être pure. Quand on se repose sur la grâce de Jésus-Christ, on découvre peu à peu que c'est elle qui nous inspire, puis qui nous porte à mener une vie plus disciplinée, puis à nous tenir loin de la tentation. La discipline est spirituelle seulement si elle nous a d'abord été inspirée par la grâce, puis l'amour de Dieu. Il y a une énorme différence entre se retenir tout court, puis se retenir pour l'amour de Dieu. Pas pareil, ça. C'est vraiment la grâce qui inspire de se retenir par amour pour Dieu. Si c'est l'amour de Dieu qui nous inspire la retenue, puis la discipline, alors notre discipline est vraiment spirituelle. Il faut que la discipline soit enracinée dans la grâce, puis dans l'amour de Dieu. C'est bien important. Si on se met à vouloir arrêter de pécher juste parce qu'un chrétien ne doit pas faire ça, ou parce que c'est pas normal qu'un chrétien fasse ça, là, on n'est pas dans la bonne track. On est débarqué du chemin un petit peu, là. Nos efforts, à eux seuls, pourront jamais reproduire la vie de Christ en nous autres. Maintenant, la grâce à elle seule ne pourra pas le faire non plus sans coopération de notre part. La nature humaine étant ce qu'elle est, la nécessité de nous discipliner va toujours être présente. Tant qu'on va être dans notre corps, on va avoir besoin de fournir des efforts pour le garder soumis à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul a écrit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Je le tiens assujetti, hein? Il l'est déjà assujetti, on a juste à le tenir assujetti. C'est Jésus-Christ qui nous l'a assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Pierre a aussi écrit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à cause de cela même, faites tous vos efforts, etc. » 2 Pierre 1-3 « D'abord, il faut reconnaître la grâce que Dieu a fait habiter en nous autres, par Jésus-Christ. Ensuite, fournir des efforts pour lui obéir. » C'est comme ça que ça marche, là. Pas à l'envers. La grâce de Dieu n'exclut pas les efforts. Elle fait juste se mettre en avant. Loin d'exclure la discipline, la grâce nous pousse au contraire à mener une vie mieux réglée, puis à fournir des efforts pour mettre de l'ordre dans notre vie. Les efforts sont absolument nécessaires à l'avancement spirituel, comprenez-moi bien. Sans faire d'efforts, le croyant va rétrograder, c'est une absolue garantie. En ce qui concerne la sanctification, Dieu aide pas ceux qui n'ont pas d'abord le désir de s'aider eux-mêmes. Les efforts dont parle Pierre ici sont un appel à la diligence. Ce mot-là veut dire soin attentif, appliqué, activité empressée à l'exécution d'une chose, le zèle, se hâter. C'est ça la diligence. On a besoin des efforts pour coopérer avec la grâce divine. La grâce nous enseigne à marcher sur notre chair, puis à écraser sa volonté égoïste. La grâce de Dieu en lui pousse le croyant à être diligent dans la prière, le pousse à pas négliger la lecture de la Bible, le pousse ou le conduit à avoir du zèle, à pratiquer de bonnes œuvres, puis à exercer ses dons spirituels, etc. Le manque de diligence, ou le manque d'obéissance, si vous préférez, à la grâce, va nous mener au relâchement spirituel, puis à éprouver une perte d'énergie dans le Seigneur. Quand on n'obéit pas à la grâce, on en perd un peu. Alors, les efforts, c'est sérieux, parce que si on n'en fait pas, on va rétrograder, c'est une certitude, ça. C'est notre ignorance ou notre négligence qui nous empêche d'être saints, dans le fond, parce qu'on a tout ce qu'il faut hein, dans le Seigneur. David a écrit « Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne », psaume 51-14. La volonté naturelle de la chair n'a aucune place dans la sanctification. Ce que le monde appelle « avoir de la volonté » n'a rien de commun avec la sainte volonté que Dieu a placée lui-même dans notre cœur quand on a reçu l'Esprit de Jésus. Jésus a écrit quelque part qu'il était venu pour faire la volonté de Dieu. Puis ce même Jésus-là habite en nous autres, puis il veut encore, à travers nous autres, faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Il s'agit juste de le laisser vivre, il ne s'agit pas d'essayer de faire comme lui. On va encore parler brièvement de cet aspect de la discipline spirituelle qui consiste à résister à la tentation. David Johnson a écrit « Dans la majorité des cas, la seule méthode que la chair connaisse pour éliminer un péché est de le suppresser aussi radicalement que possible. Dans le contexte de l'Église, cela se traduit par l'apport de règles, d'injonctions et de contraintes. On semble croire que prêcher plus fort fait plus d'efforts, faire peur aux gens ou de faire prier sur nous plus souvent nous rendra capables de régler notre problème de péché. Si notre méthode de se défaire d'un péché dans notre vie est de le suppresser le plus possible, il y a de grandes chances pour que le couvercle saute un de ces jours. Exercer un contrôle extérieur sur le péché équivaut à n'exercer aucun contrôle du tout. Fin de citation. C'est vrai, ça. Alors, on a vu que la discipline est vaine quand elle essaie d'acquérir des vertus. J'espère que cet aspect-là est bien clair. Maintenant, la discipline est également vaine quand elle essaie de retenir la chair de péché sans s'appuyer avec foi sur la grâce de Jésus-Christ, qui doit nous inspirer cette retenue-là, d'abord. Il est extrêmement important que les croyants aient une bonne base doctrinale à propos de la grâce de Dieu, puis de leur position en Jésus-Christ, qui nous a donné automatiquement la victoire sur tout péché, puis nous a donné le pouvoir de nous conduire comme des enfants de Dieu. Sinon, tout va être confus. Par sa grâce, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance de tout péché. Le croyant n'a plus vraiment de problème avec le péché, saviez-vous ça? Il y a un problème avec lui-même. Il n'y a pas de problème avec le péché, mais avec la tentation, plus précisément. C'est pour ça qu'en Genèse 3:3, Dieu dit, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Il y a un détail important ici. Dieu leur a pas seulement dit de ne pas manger de l'arbre, mais de même pas le toucher. Autrement dit, de ne pas s'en approcher. Il y a un principe ici. Non seulement l'Écriture nous exhorte à nous éloigner du péché, mais aussi de ce qui l'entoure par mesure de prudence. L'Écriture nous exhorte à fuir ce qui peut être pour nous autres un sujet de tentation. Jerry Bridge a écrit « Le meilleur endroit pour commencer à exercer un contrôle sur nos appétits physiques, c'est de réduire notre exposition à la tentation. La grâce va nous porter à faire ça. Notre appétit pécheresse est fortifié par la tentation. » Fin de citation. Il ne s'agit pas d'ascétisme. C'est encore Jerry Bridge qui parle. Il ne s'agit pas d'ascétisme, mais de prudence spirituelle. Chacun de nous doit être attentif à savoir de quelle façon le péché nous attaque à travers nos désirs et prendre des actions préventives. C'est ce que Paul encourageait Timothée à faire en disant « Fuis les passions de la jeunesse » en Timothée 2:22, fin de citation. On va considérer le texte suivant. 1 Pierre 1:14. « Comme des enfants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Remarquez le mot « obéissant ». Le seul endroit où on a besoin de discipline dans notre vie, c'est pour nous éloigner de la tentation puis pour pratiquer les moyens de grâce avec diligence. La discipline ne sanctifie pas, c'est le Saint-Esprit qui nous rend plus saints. La discipline est seulement une aide à la sanctification, ou un moyen de coopérer avec la grâce, si vous préférez. Alors, il est évident que si on s'expose à la tentation, on fortifie notre chair, puis on affaiblit la grâce du même coup. Ce qui n'est pas tellement intelligent à faire pour un chrétien. Dieu ne peut être tenté par le mal, nous dit Jacques 1:13. Si on pouvait voir le péché avec les yeux saints de Dieu, si on en verrait comme lui toute la laideur, il est probable qu'on n'en serait plus tenté du tout, nous autres non plus. Personnellement, même si j'avais ben faim, là, je serais même pas tenté par une tarte à la grenouille. Dieu voit le péché avec la même répugnance, vous savez. C'est une des raisons pourquoi il n'en est pas tenté, je pense. Maintenant, la grâce, c'est la nature même de Dieu. Si on fouille un petit peu dans notre cœur, on va découvrir qu'on possède cette même répugnance-là en nous autres aussi. L'ultime sanctification serait évidemment d'être tellement conscient de la grâce de Dieu en nous autres qu'on serait comme Dieu, même plus tenté par le mal. Mais on sait bien que tant qu'on va être dans notre corps, on va être sujet à une certaine mesure de tentation. On ne peut pas échapper à ça. On doit, par amour pour le Seigneur, user de la sainte volonté que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ pour marcher au large de la tentation et du péché, en fuyant les occasions de chute, en fuyant la tentation, puis en pratiquant les moyens de grâce. Je répète encore une fois que la discipline ne sanctifie pas, c'est la grâce et la discipline qui sanctifient. C'est comme l'Ancien Testament, quand Dieu a demandé à Gédéon de combattre une armée plus grande et plus forte que la sienne. Vous vous souvenez de l'histoire? Dieu s'efforçait de le faire marcher par la foi, en lui disant qu'il allait lui-même marcher devant eux, pour que ce soit Dieu et non l'homme qui puisse tirer gloire par la suite. Dieu allait combattre pour eux. Mais, évidemment, il fallait qu'ils y aillent quand même, par exemple. C'est pareil pour nous autres aujourd'hui. Quand Dieu demande à son peuple de combattre contre le péché, c'est Dieu qui fait le travail, c'est la grâce, oui, mais il faut le faire d'abord par la foi, c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir que c'est Jésus-Christ en nous qui nous donne la grâce de vaincre, de renoncer de cœur au péché, mais c'est à nous autres d'obéir au Saint-Esprit. Pendant longtemps, moi-même, j'ai essayé de donner à boire au Seigneur, en tentant de puiser en moi-même quelque chose à lui offrir. Je réalisais, par exemple, ça n'a pas pris de temps, qu'il fallait que je tourne la manivelle indéfiniment avant qu'il en sorte quoi que ce soit. Puis quand il sortait quelque chose, eh bien, c'était même pas buvable. Alors, laissons donc le Seigneur nous donner lui-même à boire, comme le dit l'Écriture. Puisons avec foi en Jésus-Christ la grâce de nous discipliner puis de mener une vie plus sainte. Disciplinons-nous sous l'inspiration de la grâce puis par amour pour Dieu. Jésus a dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Jean 14, 21 et 23. J'espère que ce petit message-là va avoir aidé à éclaircir certains points sur la sanctification que je jugeais très important. Amen.